Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap avec
Stéphane Ottonelli.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Nos amis italiens avaient voté, il fallait bien que le résultat des élections se traduise par la désignation d'un Premier ministre, en l'occurrence Giuseppe Conte, et la formation d'un gouvernement. Après des semaines de tractations, cela semblait être chose faite. Les négociations ont abouti à ce qui paraît être un programme de gouvernement entre deux formations que rien ne rapproche, la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles, qui se veut une formation anti-système et qui demeure parfaitement inclassable. Ce dernier n'ayant pas de ligne idéologique claire, surfant sur toutes les tendances et attrapant tous les déçus de la politique traditionnelle, et nous savons que c'est là un réservoir difficilement épuisable. Une espèce d'alliance de la carte et du lapin dont on peut légitimement se demander combien de temps elle va perdurer. Pour être franc, on n'attendait pas à ce résultat des élections italiennes, ou à tout le moins on espérait qu'il ne se produirait pas. Comme on n'entendait pas d'ailleurs d'autres, à commencer par l'élection de Trump. Malheureusement, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie s'inscrit dans un scénario européen de recomposition politique qui mêle dégagisme et rejet de l'austérité économique. Un phénomène qui a déjà touché un certain nombre de pays de l'Est, tels que la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et l'Autriche. Dans tous ces pays se sont installés au pouvoir des formations populistes souvent élues avec une majorité confortable. Elles présentent au moins deux caractéristiques, des discours ouvertement nationalistes et de plus en plus de convergence, pour ne pas dire de porosité, ce qui est un euphémisme, avec l'extrême droite. En Italie, troisième économie européenne et pays où fut signé le traité de Rome en 1957, la pilule a un peu plus de mal à passer. Et d'autres pays, tels au moins Paris et Berlin, observent la situation avec des craintes qui s'affichent de plus en plus ouvertement. J'en veux pour preuve la déclaration de Bruno Le Maire quant au respect des règles européennes, Le Maire aussitôt recadré par le patron de la Ligue, Matteo Salvini, qui a dénoncé, et je le cite, « une invasion de terrain inacceptable ». Mais l'inquiétude des pays du noyau dur européen n'est pas sans fondement. Surtout en lisant l'effarant programme économique de la coalition. Sachant que le déficit de la péninsule atteint déjà 132% du PIB, soit 2 300 milliards d'euros, c'est tellement énorme qu'on a un peu de mal à concevoir, que le nouveau gouvernement veut instaurer un impôt sur le revenu à taux unique de 15% pour les particuliers, 20% pour les entreprises. Alors effectivement, le rapprochement des deux, entre les deux, 1300 milliards d'euros et un impôt à taux unique dont les taux sont considérablement bas, c'est quand même assez surprenant. Et il veut également mettre en place un revenu citoyen de 780 euros par mois pour les chômeurs et les personnes âgées. Eh bien, dire cela et le lire donne un peu le vertige, surtout quand on se demande qui va payer. L'Europe peut-être, mais en avons-nous envie? On a déjà eu la Grèce, mais là, tout cela pourrait aller beaucoup plus loin. Notre responsabilité dans cette affaire n'est tout de même pas exclue. N'oublions pas que ces partis aujourd'hui au pouvoir, ils sont peut-être arrivés parce qu'ils ont promis d'expulser du pays 500 000 migrants. Une Italie à l'époque europhile, mais que l'on a laissé seule face à l'afflux des migrants sur ses côtes. Les Italiens ont appelé au secours, personne ne leur a répondu. Surtout pas d'ailleurs le toujours inspiré ex-président Hollande. Et du coup, ils sont devenus europhobes, certains même, et peut-être le futur ministre de l'économie italienne, qui prône la sortie de l'euro. Bref, l'Europe est passablement bousculée par des tensions internes, en manque de leaders crédibles, et elle vient de se découvrir un nouveau problème, et non des moindres. Mais cette situation déjà passablement complexe vient de s'embrouiller encore plus, puisque, on l'a appris hier, la formation du nouveau gouvernement a échoué. Conte a rendu son tablier au président de la République, Sergio Mattarella, lequel avait refusé de nommer un ministre des Finances notoirement eurosceptique et anti-euro que j'évoquais ci-dessus. Alors la suite au prochain numéro est certainement, vraisemblablement, après de nouvelles élections qui pourraient se tenir à l'automne prochain. Autrement dit, nous allons certainement reparler souvent de l'Italie à ce micro et dans d'autres émissions, puisque d'ailleurs c'est au programme de l'émission « Ça va mieux » que j'animerai avec mes chroniqueurs mercredi prochain de 18h à 19h. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Esprit Occitanie un homme qui d'ordinaire opère en bleu, si je puis dire. Il est gendarme, mais vous ne le verrez ni derrière un radar, ni au bord d'une route. Son domaine de prédilection et celui de certains de ses collègues, c'est le virtuel, le cyberespace. Bonjour Stéphane Tonelli.
Bonjour Jacques.
Alors Stéphane Tonelli, qu'est-ce que c'est que ce cyberespace, cette cybercriminalité ? C'est une infraction pénale déjà, il faut le dire.
Déjà, d'une part, on peut commencer par là, c'est une infraction pénale. C'est ni plus ni moins que la criminalité que l'on connaît, qui est transposée sur le net. Voilà, il n'y a pas de définition bien précise, mis à part celle que je vous donne là maintenant. Tous les crimes et délits sont transposés. Et voilà, on n'a pas de code pénal particulier pour la cyber. Néanmoins, nous avons quand même des textes au niveau européen. La Convention de Budapest, qui a été ratifiée par certains États et pas d'autres. Donc on s'appuie essentiellement sur le code de procédure pénale. Code pénal et cette convention. Voilà.
Donc ce sont des gens qui vivent dans un monde, ce fameux monde virtuel.
Pas si virtuel que ça.
Pas si virtuel, oui, puisqu'il se, quand même, il se traduit par... on peut en commettre des infractions et on peut ramener beaucoup d'argent parce que ça coûte cette affaire-là. On a vu des articles, on en parlait avant de démarrer l'émission, ça se compte quand même en milliards de dollars, 600 milliards de dollars par an, peut-on lire ?
Tout à fait, oui. Tout simplement, on a dépassé, mais depuis très très longtemps, on a dépassé le chiffre d'affaires du trafic de drogue, tout simplement, voilà, pour diverses raisons.
Et c'est moins risqué, peut-être ?
C'est pour ça, c'est parce que c'est beaucoup moins risqué, oui. Derrière son écran, avec tout un tas de techniques adaptées, on peut opérer facilement.
Alors, quelles sont les infractions les plus communément commises à travers ce qui est finalement un nouvel outil qui a été détourné, mais comme beaucoup ?
Alors, on travaille essentiellement sur des faits d'escroquerie. Et ce qu'on appelle, c'est pas un terme générique, hein, puisque c'est une infraction du code pénal, ce qu'on appelle le système de traitement automatisé des données. Donc toutes les atteintes qu'on peut appeler hacking, etc., qui touchent les systèmes de traitement de données, comme les ordinateurs, les réseaux, etc. Voilà, donc on trouve, mais la majeure partie du temps, et surtout pour l'année 2017, ce sont les escroqueries.
Donc ça veut dire des intrusions dans des systèmes informatiques.
Oui, tout à fait, intrusions. Le terme générique de hacking englobe toutes ces intrusions. Ouais. Donc modification de données, le vol de données. Alors le vol de données numérique, on pourrait polémiquer des heures et des heures, puisque c'est justement sur quoi on travaille, notamment au niveau pénal. Mais ce sont toutes les intrusions dans les systèmes de traitement de données. Ouais.
Alors après, ce n'est pas quand même le seul domaine. Là, c'est aujourd'hui peut-être l'essentiel de votre activité. Après, on trouve quand même d'autres choses.
Oui, tout à fait. Ouais. On trouve tout un tas de choses. Oui, tout un tas
On a souvent, quand on écoute les informations, parce que c'est un vrai polar finalement maintenant, les journaux, ouais. On parle de tout ce qui est pédopornographie, par exemple.
Oui, malheureusement, c'est, j'allais pas dire que c'est 80% de notre temps, mais oui, effectivement, la pédopornographie, ça a pris une place importante sur le net, ouais. Notamment sur le dark web. Ça fait pas loin d'une décennie que je travaille dessus, sur les faits de pédopornographie. Et j'ai pu constater depuis quelques années qu'ils se sont transposés eux aussi sur le dark web.
Ça veut dire qu'ils ont abandonné un peu les méthodes classiques pour venir...
Complètement. Pourquoi ? Parce que effectivement sur le net, on a plus de possibilités actuellement de les remonter. Donc, sur le dark web, c'est autre chose. Quoi.
Alors, dark web, qu'est-ce que c'est ?
Alors, voilà.
Ouais. Ne soyons pas trop techniques.
Le dark web, c'est tout simplement... c'est ni plus ni moins qu'un réseau parallèle sur Internet. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un autre tuyau. Hein. On utilise le même tuyau, Internet. Mais on passe par tout un tas de relais, différents ordinateurs qui vont relayer l'information et qui vont permettre de se camoufler. Voilà. Donc il y a la sémantique est importante parce qu'on a tendance à parler de darknet. Et les darknets sont ni plus ni moins que des réseaux au sein du dark web. Voilà. C'est important. Ce sont des places de marché qui se créent, que des gens créent, voilà, avec un accès particulier par lequel vous allez passer par un logiciel. Je prends le cas de Tor, du réseau Tor. Donc vous rebondissez sur tout un tas de serveurs qui vous permettent de camoufler votre adresse IP originelle. Quoi, voilà. Et vous avez accès à des forums avec tout un tas de choses.
Donc finalement, ce développement exponentiel de la cybercriminalité vient de l'évolution des techniques, déjà certainement couplé aussi à la globalisation, puisqu'avant, on ne parlait pas de ce genre de choses.
Bien sûr, mais après, il faut savoir que ce n'est pas compliqué. Si vous prenez les pays émergents, vous avez 10 ingénieurs de haut niveau qui sortent d'école et vous avez un ou deux postes. Donc vous imaginez bien que les autres sont vite récupérés par... j'emploie volontairement le terme de « mafia ». Pourquoi ? Parce que ces gens-là, la criminalité s'est transposée, comme je vous l'ai dit en introduction, sur le net. Donc on a une augmentation du niveau technique et des techniques d'attaque.
Alors on y trouve aussi, j'imagine, tout ce qui concerne le terrorisme.
Bien évidemment.
Le blanchiment d'argent, certainement aussi, doit passer par là.
Blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Oui,
contrefaçon, tout ce qui est propriété intellectuelle.
Oui, beaucoup. Mais la contrefaçon, sur le web, on a tendance à parler, à s'orienter vers les films, la contrefaçon de musique, MP3, films, etc. Mais on trouve aussi des articles de mode contrefaits sur le dark.
On lisait un article du Monde qui est paru la semaine dernière que je vous ai cité où, sur le trafic d'animaux, d'animaux vivants, d'animaux sauvages, etc. Enfin, en réalité, ça recoupe ce que vous nous avez dit en commençant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction spécifique,
non,
il y a simplement le terrain de jeu s'est déplacé vers le net.
Tout à fait.
Et c'est un terrain de jeu qui apparemment est sans fin.
Sans fin, oui, bien évidemment, puisqu'il s'adapte constamment à nos techniques, d'une part, et puis à ce qu'il aurait offert sur le dark web. Je prends encore l'exemple du dark web, parce que c'est effectivement la face cachée du net, et c'est là où on trouve le plus
c'est
gros
trafic. C'est la face sombre du
net. La face sombre.
C'est Dark Vador, on parle de dark web. Voilà. Alors, est-ce que le Internet, c'est mondial, ça n'a pas de frontières, Internet ? Et est-ce que ce n'est pas un problème pour vous, enquêteur ? Parce que vous heurtez quand même, vos compétences ne dépassent pas les frontières.
Bien évidemment, on a un problème de territorialité, puisque nous agissons principalement sur le territoire français. Et on sait qu'on peut évidemment se faire passer, tout en étant français, pour un citoyen ukrainien, russe, japonais. On peut choisir notre nationalité avec l'adresse IP. Donc forcément, ça complique les choses. Et d'autant plus que sur le dark, on peut rebondir, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur tout un tas d'adresses IP et de serveurs qui sont forcément, ils vont choisir ce qu'on appelle des nœuds qui ne sont pas situés sur notre territoire. Donc ça complique les choses. Oui.
Est-ce qu'on a une législation suffisamment adaptée ? Est-ce que l'outil législatif, à côté des autres outils que vous utilisez, est suffisante pour vous permettre d'agir ?
Oui, je pense, sauf que je citais la Convention de Budapest. Effectivement, certains pays n'ont pas ratifié cette convention. Vous vous doutez bien lesquels, et certains, je ne les citerai pas.
Ne les citons pas, mais enfin, on va toujours retrouver à peu près les mêmes.
Hein. Voilà, c'est toujours à peu près les mêmes. Donc forcément, si nous avons besoin, en tant qu'enquêteur, d'envoyer une réquisition dans un pays qui n'a pas ratifié cette convention, on se heurte à de gros problèmes.
Ça veut dire que oui, le canal est coupé, finalement.
Exactement.
Oui. Les moyens juridiques, c'est une chose. La procédure pénale, est-ce qu'elle vous aide ? Est-ce qu'elle vous paralyse un peu ? Alors certains enquêteurs, mais dans d'autres domaines, qui sont peut-être un peu plus, qui ne sont pas sur le virtuel, mais sur le réel, on va dire, des fois se plaignent de cette sophistication de la procédure pénale, de sa lourdeur. Alors effectivement, on a voulu garantir les droits, ce qui peut très bien se comprendre dans une république, dans une démocratie comme la nôtre. Par contre... l'envers de la médaille, c'est que les services de police sont un peu plus paralysés.
Non, pas plus que dans le monde réel, j'allais dire, mais c'est simplement le problème de territorialité qui nous pose de gros problèmes. Voilà.
Alors, est-ce que cette territorialité s'applique aussi à l'Europe ? Parce que finalement, on pourrait penser que la plupart des pays européens collaborent.
Ça
vous n'avez pas l'air tout à fait sûr que ce soit le cas.
Non, je suis. Non, l'Europe, ça. Oui, il y a une collaboration entre les pays européens et pilotée par Europol, justement. Certains pays ou certaines principautés, encore une fois, dont je ne citerai pas le nom, c'est plus difficile. Voilà, effectivement, il y a encore, en matière de criminalité sur le net et de blanchiment d'argent, encore des pays qui ne collaborent pas complètement.
Suffit peut-être d'aller voir un peu au nord, au Luxembourg par exemple, sur le plan fiscal, moi qui suis attaché à la fiscalité, on sait qu'on a là des possibilités infinies, enfin infinies peut-être pas, j'exagère, mais des possibilités extrêmement importantes, et au niveau de l'Europe.
Certaines îles aussi, voilà.
Donc, oui. Alors après, il faut, là, c'est un appareil législatif, vous nous dites, bon, il est à peu près suffisant, à part qu'on se heurte à nos frontières, et là on est sur, j'ai évoqué tout à l'heure la globalisation, mais ouais. La globalisation du crime a suivi, bien évidemment. Est-ce que, quels sont les outils répressifs qu'on a ? Alors la gendarmerie a toujours été, depuis longtemps, et vous en êtes le représentant aujourd'hui ici, elle a toujours été très, très en pointe sur ce sujet-là.
Oui, oui, effectivement, on a pris les devants, il y a allez, pas une vingtaine d'années, mais une bonne quinzaine d'années, effectivement. Et puis, on a développé tout un tas de techniques. Ce qui nous inquiète actuellement, ce sont les crypto-monnaies. Oui, voilà, quand on va certainement parler de blanchiment. Et on est surtout à la pointe sur cette thématique-là. Oui.
Alors, crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce sont des monnaies, j'allais dire virtuelles. Non, pas si virtuelles que ça.
Des bitcoins ?
Bitcoins, entre oui. autres. Voilà, il n'y a pas que les bitcoins, il y a tout un tas de crypto-monnaies annexes. Mais on a vu apparaître le Bitcoin en 2000. Allez, vraiment, nous, on a commencé à travailler dessus en 2013. Et encore une fois, je relis ça au Darknet, au Dark Web. On avait un site, le site qui avait pignon sur rue sur le Dark Web à l'époque, c'était Silk Road, qui utilisait tout un autre système de paiement qui s'appelait Liberty Reserve et qui s'est effondré lorsqu'on a interpellé les gens à la tête de ce forum. Ils se sont posé la question pour eux du financement. Donc, on a vu apparaître le Bitcoin. Ouais. Voilà, 2013, ça apparaît vraiment. Et on s'est posé la question du fonctionnement. Donc, on est vraiment, quelques années d'avance là-dessus. Ouais. Voilà.
Enfin, le Bitcoin, c'est pas uniquement réservé aux malfrats. Il y a beaucoup de gens qui
pas du tout
qui l'utilisent.
Pas du tout. Ouais, pas du tout. C'est comme le couteau sur une scène de crime. Un couteau, ça sert aussi à cuisiner, à couper des carottes. Voilà. Mais on peut tuer aussi le Bitcoin. C'est une monnaie qui. Alors, la définition est plus complexe puisque c'est une monnaie qui va servir à se passer des intermédiaires de confiance, quoi. Tout simplement. Voilà. Qui a été créée à la base pour ça.
C'est-à-dire les banques.
Les banques.
Je ne sais pas si on peut avoir confiance dans une banque, mais bon, traditionnellement, c'est ce qu'on dit, oui.
Oui. Hein? Je ne serai pas sur le sujet, mais effectivement.
Donc, le Bitcoin a été colonisé, a été utilisé par la pègre informatique.
Voilà. Et toujours.
Ce qui permet d'assurer des paiements sans véritable trace.
Alors, au contraire, c'est là où le paradoxe existe, puisqu'on a une traçabilité du Bitcoin, puisqu'on passe par un système qui s'appelle la blockchain pour le Bitcoin, et qui nous permet justement de tracer toutes les transactions depuis la genèse, depuis le premier Bitcoin jusqu'à maintenant. Sauf que les Bitcoins, quand on a un portefeuille de Bitcoin, un logiciel, c'est une adresse chiffrée. Donc on ne colle pas d'identité à ces adresses-là, voilà. Mais on trace toutes les transactions.
Et alors ces transactions, elles peuvent être tracées aussi bien que si on les effectue en dollars, en euros, en.
Et non, justement, là on les effectue en Bitcoin ouais. ou avec d'autres crypto-monnaies. Donc on les trace sur cette.
Oui, enfin vous voyez, vous savez d'où c'est parti.
On sait d'où ça part, du portefeuille.
On sait où ça va, mais vous savez pas exactement qui est derrière.
Voilà, c'est tout le travail, tout est là. Nous on a commencé à développer des techniques pour essayer de remonter, de tracer ces.
Enfin, c'est un travail de fourmi, ça.
C'est un travail de fourmi, mais on a une entité quand même nationale qui s'appelle le C3N à Pontoise et qui utilise des outils de traçabilité extrêmement puissants. Quoi. Voilà.
La police nationale aussi s'est dotée de spécialistes ?
Oui, tout à fait.
Vous collaborez entre vous ou c'est toujours un peu, on ne va pas dire la guerre des policiers,
c'est un terme un peu stupide, mais chacun
a son domaine. Vous avez des spécialités qu'ils ont, que vous avez, qu'ils n'ont pas ou
alors on a beaucoup plus de recul quant à la pédopornographie puisqu'on y travaille depuis très très longtemps. Mais non, moi en plus je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que ce n'est pas vrai, en tout cas en ce qui concerne les enquêteurs cyber. Quoi. Donc non, on collabore. Après, ils ont des difficultés que nous. On a chacun nos difficultés, donc c'est voilà.
Oui, mais globalement.
Mais c'est vrai que on est très peu en France, aussi bien pour en ce qui concerne la gendarmerie que la police. Et peut-être qu'un jour on arrivera à mettre les moyens vraiment en commun, en tout cas en ce qui concerne la cyber. Ça existe déjà sur certaines plateformes nationales.
Pensez que les moyens aujourd'hui, mais c'est un peu commun à toutes les problématiques, à toutes les administrations, que les moyens humains ne sont pas suffisants. Vous auriez besoin d'avoir des renforts ?
Oui, on a toujours besoin d'effectifs, que ce soit en cyber ou sur le terrain. Hein, on ne va pas se cacher, c'est là où le bât blesse. Quoi. On n'a pas besoin de grosses machines hyper puissantes, etc. Parce que c'est pas le, on n'a pas besoin. On a des gens qui sont suffisamment calés chez nous, notamment au sein de cette entité nationale. Mais nous, sur le terrain, on a besoin d'hommes. Oui. Parce que la cyber, c'est une chose, mais on a des hommes derrière. Moi, je replace toujours l'homme au centre de tout ça. Quoi. Il y a quand même des gens qui vont recevoir le fruit de leurs escroqueries et qui ont besoin de cash quand même. Hein.
Oui, parce qu'à un moment ou l'autre, il faut bien le sortir. Voilà. Puis il faut l'utiliser aussi.
Exactement, il faut l'utiliser, il faut vivre. Voilà. Il faut, voilà. Donc les bitcoins, c'est bien d'avoir des portefeuilles de bitcoins, mais il faut quand même avoir du cash pour vivre. Tant que, pour l'instant, on n'est pas dans un contexte où on peut vivre avec du bitcoin. Voilà, on n'a pas de commerçant qui accepte le bitcoin, ou très 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 peu. Donc il faut du cash.
Donc, voilà. D'une manière ou d'une autre, il faut sortir du bois.
Donc, il faut sortir du bois, il faut surveiller ces gens. Il y a des techniques, les techniques d'enquête habituelles, on les utilise aussi en parallèle au cyber.
D'accord. Alors, après, une fois qu'on a fait l'enquête, on l'a ficelé, on est allé au bout, ça a pris combien ? Ça va prendre des mois, des années ?
Ça dépend le contexte. Actuellement, pour une escroquerie de type ransomware, je vais développer, actuellement, il y a certaines PME. Ce sont les PME qui sont les plus touchées, qui se voient le réseau chiffré, entièrement chiffré, avec un message qui apparaît sur les postes de travail et qui demande le paiement d'une rançon en bitcoin en vue de déchiffrer le système. Donc,
c'est une prise d'otage. Quoi.
C'est une prise d'otage, voilà, à distance. Donc là, on est sur de la criminalité organisée. Je ne peux pas vous chiffrer le nombre de mois ou d'années, mais actuellement, des enquêtes comme ça, c'est de 1 à 2 ans, quoi, voilà, en termes d'enquête.
Alors, si l'enquête aboutit, je dis bien si elle aboutit, parce que c'est peut-être plus long et puis peut-être qu'elle n'aboutira jamais, au bout du compte, vous avez travaillé pour un magistrat qui va, ça va être porté devant un tribunal correctionnel, fait, parce que jusque-là, je ne pense pas qu'on soit jamais allé aux assises pour ce genre de questions.
Parce en matière de pédopornographie, c'est arrivé, mais pas pour ce genre d'atteinte. Tout ce qui concerne les atteintes au stade, non. Alors, on est sur du délictuel. Donc.
On a des magistrats spécialisés là-dedans
Très, très peu. Très, très peu, oui. Ouais. Je pense que ça a été pris en compte lors de la formation des magistrats à l'ENM. On commence à voir des magistrats qui s'y intéressent, puisque c'est quand même, on peut retrouver le volet cyber dans toutes les enquêtes. Hein. Actuellement, en trafic de stupes, on a de la cyber aussi. Hein. Donc, les magistrats, mais ne sont pas, je ne pense pas que ce soit une matière à part entière au sein de l'ENM. Quoi. Mais on a, à Paris notamment, puisqu'on a le parquet de Paris qui s'est vu adjoindre un pôle cyber, on a quelques magistrats très spécialisés. Voilà.
Ils vous suivent, les magistrats ?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Si, non, j'ai pas de.
Il n'est pas question. Mais bon, ce sont quand même des procédures extrêmement longues. Et plus la procédure est longue, finalement, moins la peine a un effet pédagogique.
Tout à fait.
Et ça, mais ce n'est pas que dans le domaine de la cybercriminalité, c'est à peu près général.
C'est général, oui. Sauf que après, quand on arrive à vulgariser au maximum en tant qu'enquêteur, lorsqu'on initie un dossier et qu'on fait comprendre aux magistrats que derrière, il y a quand même un gros préjudice, que ce soit financier mais aussi moral. Hein. Quand une PME, comme je citais tout à l'heure, les PME, se voit chiffrer l'ensemble de son réseau et doit payer une rançon de l'ordre de, allez, en équivalent en euros de 15 000 euros, voilà, on a quand même une misère derrière. Quoi. Ça peut mettre une société au tapis, quoi, hein, pour parler. Mais voilà, les magistrats l'ont compris, ça. Et puis, devant la multiplicité de ce type d'infraction, je pense que le parquet reçoit énormément de plaintes. Il l'aborde correctement, pour moi, depuis quelques années.
Ouais. Voilà. Ouais, ils ont été sensibilisés avec les moyens qui sont les leurs.
Tout à fait. Voilà. Donc, on intervient aussi. Moi, j'interviens depuis 2 ans en partenariat avec l'ENM. Sur la formation, ou plutôt l'initiation de certains magistrats à la cybercriminalité. C'est une demande de leur part. On a de très très bons échanges, et quand ils ressortent de la salle, ils sont extrêmement heureux, et puis ils abordent ce volet-là, qui ne fait pas forcément toujours partie de leur portefeuille. Hein. Quand un juge d'instruction toulousain a 120 dossiers dans son cabinet, on peut se douter que le volet cyber, ce n'est pas la priorité, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a des crimes.
Oui, et puis là, en plus de ça, bon, les magistrats sont des juristes. Là, on est sur de la technique.
Exactement.
Et qui vient se greffer, c'est une complexité supplémentaire.
C'est à nous de vulgariser au maximum. Mais voilà. aussi bien lorsqu'on présente le dossier que dans nos actes d'enquête, parce que c'est, voilà, les actes d'enquête sont quand même assez codifiés, et en cyber, c'est différent, quoi. Donc, voilà.
On va y venir, mais avant de rentrer dans le détail de la pratique opérationnelle, on fait une première pause musicale. Alors, c'est vous qui l'avez choisi. Je vous laisse l'annoncer.
Alors, en tant que musicien guitariste, je suis fan des Pink Floyd, donc j'ai choisi un morceau des Pink Floyd, bien évidemment, qui est un peu long, mais Shine On You Crazy Diamond des Pink.
Nous ne l'écouterons pas jusqu'au bout, mais non. Nous en écouterons un large extrait. Voilà, c'est un peu la Madeleine de Proust pour les plus anciens, mais on va laisser les Pink Floyd le choix de notre invité, Stéphane Tonelli, spécialiste pour la Gendarmerie nationale de la cybercriminalité. Alors revenons à la pratique opérationnelle, j'imagine que c'est complexe. Comment ça démarre une enquête là ? Vous êtes saisi d'une plainte ? Par qui ? Comment ?
Alors oui, effectivement, on peut être saisi d'une plainte ou on peut travailler d'initiative aussi. La majeure partie de nos enquêtes démarre d'initiative.
Ça veut dire que vous avez eu des informations en amont ?
Oui, ou parce qu'on passe du temps, énormément de temps sur le net, ce qu'on appelle
C'est un domaine communément, où ce qu'on appelle par ailleurs les tontons n'existe pas, j'imagine.
Si, justement.
Expliquez-nous tout ça, ça a l'air passionnant.
C'est ce qu'on appelle communément, nous, des sources. On en a dans toutes les enquêtes, hein, que ce soit en matière de trafic de stupes ou autre. On a des gens qui nous renseignent, donc on en a quelques-uns, c'est récent, sur le net et notamment le dark web. Voilà, parce qu'on a besoin aussi de sources humaines. Mais la majeure partie de nos procédures d'initiative, voilà, c'est parce
que... Ça veut dire que vous allez vous balader sur le net ?
Oui, on fait ce qu'on appelle communément des cyberpatrouilles. Voilà, on a des formations de cyberpatrouilleurs. Alors, c'est très codifié. On peut infiltrer des réseaux. Alors, la gendarmerie a commencé à travailler en cyberpatrouille sur des réseaux de pédopornographie. Donc, ça fait quelques années qu'on développe ça, avec succès, puisqu'on va jusqu'à, parfois, certains rendez-vous avec des pédophiles. Voilà, on se fait passer, on peut avoir un profil victime ou un profil auteur, très codifié. On peut se faire passer pour un petit garçon ou une petite fille, chatter sur des forums et rentrer. Alors il y a on essaie de ne pas provoquer l'infraction. On fait tout pour ne pas provoquer l'infraction. L'avocat pourrait me le reprocher. Mais on ne provoque pas, puisqu'il n'y a pas besoin, parce qu'en quelques minutes, sur un forum d'ado, on est alpagué par des gens plus âgés, quoi. Donc voilà. Et à nous après de développer ce travail qui peut être long parfois, hein. Ça peut être parfois pendant plusieurs mois. Donc on se fait passer. Alors bien évidemment, il faut écrire comme les ados. Il faut utiliser leur temps à eux. Hein. C'est-à-dire qu'on va pas se mettre à chatter alors qu'on est censé être à l'école. Enfin, il y a tout un tas de techniques. Je rentrerai pas dans les détails techniques, mais voilà, ça existe avec résultat. Donc en matière pédo, en matière de terrorisme et en matière de crimes et délits.
Mais vous ne savez pas au départ où se trouve votre interlocuteur.
Bien évidemment, puisqu'il se cache derrière lui aussi.
Voilà, il se cache derrière un pseudo. Donc imaginons qu'il soit, je ne sais pas, en Centrafrique. C'est un choix tout à fait arbitraire de ma part. Il est en Centrafrique. À quoi ça va vous servir de développer, puisque vous ne pourrez pas constater l'infraction sur le sol national ?
Alors bien évidemment, mais alors là, on fait un signalement. Il y a des plateformes de signalement, mais on essaie quand même de se cantonner sur des forums français avec des gens. Voilà, on est quand même quasiment certain à chaque fois qu'on démarre l'enquête que ce sont des Français, quoi.
Et comment vous le savez ?
Avec tout un tas de techniques.
Ah oui, on ne voit pas de livrer les secrets de fabrique. Je le comprends bien, mais ça reste quand même extrêmement complexe. C'est difficile d'être un cybercriminel, non ? Il faut quand même maîtriser toutes ces techniques. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Parce qu'on parlait souvent sur la pédopornographie, il y a souvent quand même des gens âgés qui vont vers les jeunes. Et on sait que les gens âgés ne sont pas toujours les plus adeptes de ce type de technique. Comment ça se passe ? Ils se forment ?
Oui, ils se forment. Quand je vous disais en introduction qu'on en travaille depuis longtemps sur la pédopornographie, sur le net, et que maintenant ça s'est transposé sur le dark web, c'est parce qu'ils se sont adaptés. Certains sont soignés, d'autres non, et ils continuent leurs activités. Et ils se forment, ils s'auto-forment. De toute façon, c'est tout simple. Hein. Maintenant, sur YouTube, vous trouvez le moindre tutoriel pour aller sur le dark web, pour vous former, vous auto-former. Hein. Donc, ils font ni plus ni moins la même chose, hein, que les autres. Hein. Voilà. Mais en ce qui concerne les cyberinfiltrations plus techniques, c'est-à-dire dark web, c'est autre chose. Voilà. Oui, effectivement, on a affaire à des gens de l'autre côté qui sont de véritables cybercriminels, mais qui sont formés. Quoi. Voilà.
Alors, ça veut dire que vous passez votre journée derrière un écran ?
Une grosse partie de la journée, voire parfois des nuits.
Oui, c'est pas un peu sec, un peu frustrant, non ?
Ah ben c'est l'essence de mon job. Hein, donc, oui, effectivement, moi je préfère, parce que j'ai quand même un passé d'enquêteur, j'allais dire normal, hein, hors cyber.
Plus classique.
J'aime bien quand même aller sur le terrain aussi.
Vous y allez à un moment ou un autre, parce que j'imagine qu'une fois que vous avez un peu débusqué le loup, il faut bien aller le chercher.
On y va, même on va, que ce soit sur le territoire français ou à l'international, on se déplace aussi. Ouais.
Comment ça se passe à l'international? Vous y allez, mais avec, dans ce cadre, commission Interpol, Europol?
Oui, aussi, commission rogatoire internationale, Europol.
Ça coûte cher, ça, on vous les donne facilement
Ah, quand l'enquête, quand on a initié une enquête qui vaut le coup, oui. Je ne vais pas dire qu'on fait un devis judiciaire avant, mais il faut quand même qu'on soit certain d'être sur de bons clients, quoi.
Et donc là, vous allez, après, vous revenez sur des procédures et des méthodes plus classiques d'interpellation.
Alors, l'interpellation dans un pays étranger, ce n'est pas la gendarmerie française, oui, qui l'effectue, mais on est en assistance. On assiste à tous les actes d'enquête du pays qui nous reçoit, quoi.
Donc vous êtes arrivé de faire un peu d'international comme cela?
Oui, oui, oui. Ouais.
On peut parler de pays, dans quel pays?
Alors, on pourrait parler d'Allemagne, on pourrait parler du Maghreb, on pourrait parler de l'Islande. Voilà, il y a pas mal de pays. Alors, il y a des pays émergents en matière de cybercriminalité, mais notamment l'Islande, oui.
Ouais. Pourquoi il serait émergent plus que
l'Islande
d'autres?
L'Islande, parce que c'est pas un vivier de cybercriminels, c'est simplement parce que ils ont énormément de data centers qui hébergent énormément de sites. Donc voilà, ils sont attaqués aussi. Ils hébergent des sites pirates sans forcément le vouloir. Hein. Mais c'est un pays qui émerge en matière de cybercriminalité, mais du numérique aussi. Voilà.
Et vous arrivez à sortir quand même beaucoup d'affaires, parce que vous disiez, on fait des patrouilles. Bon, autrefois, on voyait les gendarmes dans les staffettes en train de patrouiller sur la route. Là, aujourd'hui, vous êtes sur le net et sur des réseaux sociaux. Vous allez un peu à la pêche, finalement.
Exactement, ouais, on va à la pêche. Un gendarme qui constate une infraction en patrouille sur la route, il va initier une procédure, on fait la même chose, c'est tout. Voilà, donc c'est plus difficile.
Oui, c'est quand même infiniment plus compliqué.
C'est beaucoup plus complexe, mais il y a de la matière, donc voilà, on a le choix.
Vous arrivez, alors vous pouvez partir sur toute infraction dans ce style
toute infraction,
de patrouille.
Ouais, effectivement, on peut partir sur de la contrefaçon, on peut partir sur de l'escroquerie, on peut partir sur tout un tas d'infractions.
Et vous avez des méthodes, vous êtes plusieurs enquêteurs, alors vous appartenez à la section de recherche de Toulouse, nous ne l'avons pas dit, mais ça y est, c'est fait, et vous êtes plusieurs enquêteurs à la section de recherche?
Alors, en tant qu'enquêteur cyber, on n'est pas beaucoup, on est deux. Pour l'instant, ça va, voilà, ça va, parce qu'on est en bout de chaîne, donc bien évidemment, on ne peut pas prendre tous les dossiers initiés par la gendarmerie, mais les dossiers les plus importants, nous les avons à la section de recherche. Mais on a quand même des relais sur le terrain. On a une douzaine d'enquêteurs INTEC qui sont mes homologues, qui sont dans chaque département.
Alors INTEC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre formation?
C'est l'acronyme de nouvelles technologies, en fait. C'est la formation interne gendarmerie. C'est une formation universitaire en partenariat avec l'Université technologique de Troyes.
Et qui se fait en interne dans la gendarmerie.
Voilà, donc il y a quand même tout le cursus avant. C'est important de le préciser parce que lorsque je fais des conférences ou quand je passe dans les écoles, etc., bien évidemment, c'est un métier qui attire. Hein. Les gamins, les ados aimeraient faire ce métier d'entrée de jeu. Quoi.
Là, se balader, c'est un beau métier pour les ados.
C'est un beau métier, oui.
La patrouille, ils la font tous les jours. Tout
voilà,
le
donc ça leur plaît. Je comprends que ça... Mais sauf qu'il y a... Il faut quand même, il y a tout le cursus auparavant, hein, c'est-à-dire qu'il faut rentrer en école de gendarmerie, il faut passer le diplôme d'officier de police judiciaire pour pouvoir effectuer des enquêtes et des actes en tant qu'officier de police judiciaire. Moi, j'ai mis une bonne dizaine d'années, voire plus, avant d'intégrer cette formation. Il faut une propension quand même à ça.
Ça les fait rêver, les jeunes, parce que l'action, par exemple, on parle du GIGN, là, ça fait fantasmer, mais est-ce que faire des patrouilles sur l'informatique, ça les fait fantasmer aussi?
Complètement, oui. Mais ça plaît, de toute façon, on voit les ados actuellement, c'est le jeu vidéo, le net, les réseaux sociaux. Donc c'est quand on peut en faire son métier et lutter contre certaines dérives, oui, effectivement, ça leur plaît, oui.
Alors, la prévention, parce que c'est comme partout dans toute infraction, vous faites beaucoup de prévention, j'imagine.
Alors moi, j'essaie de multiplier, que ce soit les conférences ou les actions dans les universités, les écoles, etc., en matière de prévention, parce qu'on en fait, on appelle ça en termes militaires de la marteau-thérapie, et malgré ça, il y a toujours des pigeons qui se font avoir en matière d'escroquerie ou autre. Mais ça commence à porter ses fruits, on constate qu'il y a de plus en plus de particuliers qui s'équipent correctement, qui mettent à jour leur système, qui ont des antivirus, À force de faire de la prévention, ça porte ses fruits.
Le problème, c'est que personne n'a jamais appris véritablement à se servir de l'informatique. Donc, partant de là, on est un peu vierge, moins pour les plus anciens.
Notre génération, oui, effectivement, en tout cas la mienne. Mais les générations actuelles sont formées à l'école, dès le collège.
Est-ce qu'on leur explique effectivement tous les risques?
Oui.
Et est-ce qu'on donne les ficelles? Comment faire pour éviter de...
Oui. Alors après, peut-être qu'il faudrait développer ça. La cybersécurité, je pense qu'il faudra peut-être l'intégrer dès le collège. Voilà, parce que c'est vraiment une initiation basique dans les collèges. C'est déjà pas mal. Mais peut-être que le volet cybersécurité n'est pas assez abordé.
De quoi il faut se méfier là? Quels sont les conseils que vous donneriez?
Moi, je pense que déjà, quand on a un système qui est à jour, avec un antivirus, on a déjà...
Système à jour, qu'est-ce que c'est ce
système? Par exemple, si vous avez un système, la joie que vous avez, on ne va pas faire de publicité à l'antenne peut-être, mais un système Windows... constamment, il y a des mises à jour du système. Donc, les gens voient quelque chose clignoter dans la barre des tâches et prennent peur, alors que c'est peut-être simplement la mise à jour de Windows. Il faut les faire, les mises à jour, parce que ce sont des patchs réguliers qui mettent à jour le système au niveau de la sécurité. Il faut le faire, il faut mettre un antivirus. Il existe des antivirus gratuits, payants. Quand ils sont payants, ils ne sont pas excessivement chers. Actuellement, certains antivirus, pour une vingtaine d'euros, vous avez 3 licences à l'année. Donc voilà, je pense qu'il faut faire la démarche. Même gratuitement, vous avez des antivirus. Donc il faut en tout cas installer et mise à jour.
C'est déjà le premier conseil.
Se doter
d'un antivirus.
Exactement.
Et après? Après, ça doit dépendre. Quelle est la typologie de la victime? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes particulier?
Exactement, oui, les particuliers, ce sont les plus touchés, les particuliers, puisqu'évidemment, ils sont derrière leur écran, ils se sentent en sécurité. On pourrait faire un parallèle avec la vie réelle. Les enfants, surtout, moi, je pense qu'actuellement, quand on laisse un enfant, un mineur, tout seul dans sa chambre avec le Wi-Fi et un PC portable, c'est un petit peu la porte ouverte à tout, quoi. Voilà, ça c'est mon sentiment.
C'est un sentiment de personne éclairée.
Qui est partagé en tout cas par pas mal de monde que je côtoie. Oui, il y a danger. Il y a danger parce que c'est la porte ouverte à tout, justement, entre les réseaux sociaux, on est vite alpagué. Et je vous garantis que quand on pourrait parler de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, ce sont des gens qui vont étudier votre comportement, le comportement des ados, pendant parfois plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, sur les chats. Donc voilà, ça va très très loin. Donc.
Ils sont de véritables prédateurs.
Exactement. Donc je pense qu'en tant que parent, il faut actuellement accompagner. Pour moi, le discours que j'entends relativement souvent, c'est « moi je n'y comprends rien, je suis d'une génération qui ne comprend pas l'informatique, je le laisse faire, il connaît mieux que moi ». C'est une erreur. Je pense que quand on est parent, on accompagne ses enfants sur toutes les...
Oui, ça, normalement, oui.
Voilà.
Bon, l'actualité démontre tous les jours que certains auraient besoin, avant la formation informatique, auraient besoin de l'information en tant que parent.
Voilà,
une formation un peu plus costaud. Alors, on a en studio mon camarade Romain Galtier, que vous entendez dans l'émission Oxyform, mais qui a une question qui lui taraude.
Alors, Romain, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler du phishing?
Ah oui, alors ça c'est un fléau, le phishing. On a eu une grosse vague il y a 3-4 ans et ça revient en force là depuis l'année dernière. Le phishing, c'est ni plus ni moins qu'un message que vous n'avez pas sollicité avec par exemple un mail, le logo de votre banque ou autre, d'une autre administration, qui vous invite à retaper vos coordonnées ou vos mots de passe de sécurité, etc. La première des choses pour s'en prémunir, c'est que les banques, en tout cas tout ce qui est administration et organismes bancaires, ne vous demandent jamais vos identifiants et mots de passe par mail. Jamais. Ça, c'est la première des choses à prendre en compte. Ensuite, il faut faire attention parce que, bien évidemment, ces mails vous invitent à cliquer sur un lien qui va vous ramener vers une page quasi identique à votre banque. Alors, il faut faire attention aussi à la barre d'URL au-dessus avec le HTTPS pour site sécurisé. Pas uniquement le petit cadenas, parce qu'on souvent on me pose la question, oui, mais il y avait le petit cadenas. Le petit cadenas, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait HTTPS. Et ensuite, il faut être extrêmement attentif au contenu du mail. Parfois, il y a certaines fautes d'orthographe que ne font pas les banques. Néanmoins, ils commencent à monter en puissance et en compétence, puisqu'il y a de moins en moins de fautes d'orthographe dans les mails. Et souvent, les adresses aussi, ce qu'on appelle les noms de domaine des banques, sont usurpées, voire modifiées. Voilà. Vous prenez par exemple la BNP, il y aura bnp.paribas.com. Voilà, eux vont rajouter quelques chiffres, quelques lettres, quelques caractères dans le nom de domaine pour pouvoir pointer vers une fausse banque.
Et est-ce que c'est possible justement de se faire pêcher, même en ayant un antivirus, via ce genre de, par exemple en téléchargeant un logiciel, et dedans, ce logiciel serait corrompu par un virus. L'antivirus ne le détecte pas et on se fait attraper nos coordonnées.
Il faut savoir que l'antivirus se base sur des bases de données de virus. Donc il y a des gens qui travaillent pour les firmes, enfin les boîtes d'antivirus, qui toute la journée mettent au point ces bases de données, mais de l'autre côté aussi, ils sont en train de développer des virus. Au moment où on se parle, au moment où l'antivirus entre deux mises à jour, il se peut que un virus passe. Bon, les plus cotés antivirus sont régulièrement mis à jour toutes les, pas toutes les 10 minutes, mais tous les quarts d'heure. Voilà. Donc ça va à peu près.
Quel est le profil de ces cybercriminels ? Ce sont des personnes seules, des petits génies de l'informatique dévoyés ? Ce sont des bandes organisées, comme vous le disiez tout à l'heure ? C'est une branche de la mafia qui s'est spécialisée, comme la gendarmerie s'est spécialisée pour les combattre, par exemple ?
Il y a un petit peu de tout. Ce qui fait peur actuellement, c'est que les cybercriminels les plus compétents utilisent justement des jeunes, ce qu'on appelle dans notre jargon des newbies, qui ont regardé quelques films ou quelques séries sur le hacking. On pourrait parler de Mister Robot pour ceux qui l'ont vu, et qui après ça aimeraient être hackers. Donc ils vont sur le dark web, et c'est extrêmement facile d'aller sur le dark web, et tournent autour de forums, parce que bien évidemment sur les forums du dark web il faut montrer patte blanche, mais on a des gens au-dessus qui pilotent tout ça et qui vous laissent tourner un petit peu, et puis au bout d'un moment vont vous laisser rentrer et vont vous alpaguer en vous disant si tu veux avoir accès à la partie cachée de notre forum où tu pourras devenir le super hacker, il faut que tu fasses un job pour nous. Voilà. Le danger il est là aussi, c'est qu'il y a des mineurs parfois sont utilisés par des cybercriminels plus aguerris. Donc ils vont utiliser des logiciels en libre téléchargement que leur fourniront ces gens-là, et ils vont effectuer des attaques sans savoir ce qu'ils font. Quoi. Tout simplement en installant le logiciel, ça va lancer des attaques pour les gens au-dessus.
Ça, c'est de la manipulation.
Complètement.
Voilà. Les petites mains qui vont...
Et alors on va aller taper à 6h du matin à la porte de ces jeunes-là. Les cybercriminels au-dessus sont parfaitement camouflés. Voilà, le danger actuel, c'est ça. Quoi.
Et alors, ce sont des nationaux, des internationaux. Là, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça touche tous les pays. Sauf, oui, alors, on a parlé, bon, on peut dire certains pays, vous n'avez peut-être pas les cités, mais enfin, quand on lit un peu, on revient toujours sur les mêmes. Ouais, Russie, ouais. Corée du Nord, l'Iran. Enfin, bon, ce qu'on peut considérer, entre guillemets, comme des États un peu voyous.
Enfin, pas forcément, parce que là, on parle d'attaques au niveau des États. Ça existe.
On en a vu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. On a vu des attaques généralisées.
Exactement. Mais il y a aussi cette cybercriminalité de moindre niveau qui... c'est ni plus ni moins que les mafias qui ne sont pas dans des attaques de cyberguerre ou autre, mais qui sont dans un profit maximum. Voilà.
Alors il doit y avoir des sociétés, il y a des sociétés de surveillance de gardiennage, il doit y en avoir à l'identique sur le web qui doivent fournir leurs services.
De cybersécurité.
Oui.
Il en existe, oui, notamment à Toulouse, on est en future Silicon Valley française, on a énormément de boîtes de cybersécurité de haut niveau.
De haut niveau.
Oui. Tout à fait. Ouais.
Donc on peut être en confiance avec eux.
Exactement. Voilà.
Il y a beaucoup de gens qui s'adressent à eux, des entreprises essentiellement.
Essentiellement des entreprises, parce qu'il faut pouvoir payer aussi les services de ce genre d'entreprise. Pour un particulier, c'est assez compliqué. Quoi.
Puis un particulier n'a pas forcément beaucoup de choses à mettre à l'abri.
Exactement. Voilà.
C'est surtout une entreprise qu'on va les bloquer, quelle que soit la taille. Et j'imagine que le prix qu'on va leur demander sera en fonction de la taille et des facultés contributives
je suppose, de la victime. Je suppose, oui.
Alors, vous réussissez beaucoup d'affaires par an ?
Alors, beaucoup...
Je sais bien que maintenant, la police, la gendarmerie marche beaucoup par statistique.
J'ai pas de chiffres. Moi, quand je vous parlais d'une enquête au long cours, quand on se met vraiment sur une enquête cyber importante, on n'a pas le loisir de faire grand-chose à côté, quoi. Voilà, on agglomère les moyens, on met plusieurs enquêteurs qui se mettent avec différentes spécificités, des enquêteurs financiers qui vont faire la traçabilité, des enquêteurs NTEC qui vont faire toute la technique, des analystes criminels qui vont nous schématiser tout ça et qui vont nous aider dans la procédure. Donc, oui, ben, si on arrive à sortir 2-3 affaires par an avec du retentissement et énormément de victimes, on est content, quoi. Donc voilà.
Ça veut dire que c'est quand même assez transversal. C'est l'organisation de la gendarmerie, je pense, qui le veut, hein, plus que la police nationale, où c'est beaucoup plus vertical. Mais là, vous pouvez travailler sur une même...
On a la capacité, notamment au sein des sections de recherche, et plus particulièrement à Toulouse, d'agglomérer toutes ces spécialités à un peu de temps, quoi. Voilà. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas, quand on est directeur d'enquête, moi j'ai été directeur d'enquête cyber, quand on dirige l'enquête et les enquêteurs, ben on n'a pas le loisir de faire autre chose, quoi. Donc il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits qui vont travailler, qui vont vous amener de la matière. Voilà. Et ça, on a cette capacité de le faire. Nos officiers supérieurs sont là pour coordonner aussi l'ensemble, la direction opérationnelle des enquêtes. Et nous, on est déchargés de ce volet-là, quoi.
L'heure tourne vite, nous avons beaucoup parlé, et l'heure a sonné de notre séquence littéraire, c'est qu'on n'y coupe pas sur mes émissions. Alors je vous ai demandé de choisir un livre, vous m'avez donné deux titres qui sont aussi passionnants l'un que l'autre. Le premier, c'est L'enfant et la rivière d'Henri Bosco, et le deuxième, Ma vie souterraine de Norbert Castoret, qui a eu son heure de gloire. Alors, lequel des deux, là, vous voulez nous parler des deux, si vous le souhaitez, pourquoi pas ?
Alors, moi, plutôt de Norbert Castoret, puisque je suis un ancien spéléologue. J'ai commencé très, très jeune. Je suis moniteur de spéléologie. J'ai complètement arrêté depuis de nombreuses années. Mais c'est en lisant, justement, un livre de Norbert Castoret que je suis allé visiter à l'âge de 13-14 ans. Mes premières grottes dans les avant-monts calcaires des Pyrénées. Et ça avait vraiment été une passion, quoi. Voilà. Et Norbert Castoret est un pionnier de la spéléo. Donc,
C'était peut-être une préfiguration de notre spécialité d'aujourd'hui. Vous faites un peu de spéléo dans l'Internet.
Oui,
hein,
c'est la spéléo sur Internet.
C'est un peu ça. Et L'enfant et la rivière d'Henri Bosco, je m'en souviens, je ne raconterai pas l'histoire, mais je l'ai lu, mais il y a fort longtemps.
Alors, oui, moi, c'est le livre. J'ai dû le lire ça quand j'étais en... 5e, peut-être ou 6e. C'est un livre, un roman qui est axé plutôt pour les ados. Mais moi, ça m'a éveillé à la lecture, d'une part, et à la nature aussi, parce qu'il décrit, il fait une description de la nature du fleuve. L'histoire, c'est tout simplement un enfant qui s'échappe de son quotidien à la maison, en Provence, là, et qui va explorer une rivière et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il fait une... Il décrit la nature comme rarement, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qui m'a poussé peut-être aussi vers la spéléo, la montagne, la spéléo, etc. et la nature.
Parce qu'à la montagne, j'ai noté que vous avez fait carrière aussi à la montagne, puisque vous avez été dans un BGHM, non ?
BGHM de Laurent-Sainte-Marie, au tout début. Ouais. Donc vous étiez au service national là-bas. Ouais.
Donc vous étiez dans la auto-montagne,
ouais.
Oui.
Tout à fait. Ouais.
C'est
votre
origine
familiale ? Oui, moi je suis originaire des Pyrénées, du Comminges, donc j'ai toujours fait de la montagne. Spéléo après.
Les BGHM, c'est quand même très spécialisé.
Ah, oui, oui.
Surtout dans le 74, hein, vous étiez
après, j'étais en brigade en Haute-Savoie. Oui. Ouais.
Donc là,
toujours la montagne. Ouais.
Toujours la montagne.
Mais j'ai besoin de...
D'espace.
J'ai besoin de la montagne, voilà. J'ai besoin de voir les Pyrénées, au moins les Pyrénées, comme ligne de mire. Voilà. Pas forcément le matin quand je me lève, mais d'ici, on ne les voit pas.
C'est-à-dire, quand on les voit, c'est qu'il
c'est qu'il va faire mauvais.
Il va faire très mauvais deux jours après.
Mais j'ai besoin, c'est un petit peu ma rampe, quoi. Donc voilà, ouais, je me rapproche.
Comment on devient gendarme ? Enfin, chacun a ses motivations. Les vôtres, qu'est-ce que c'était ? C'est pas un métier.
C'était la spéléo.
Ah oui, vous pensez ?
Parce que j'étais déjà spéléologue et moniteur spéléo. Et quand, pour les jeunes qui ne connaissent pas le service national, quand j'ai vu arriver l'appel, j'ai attrapé peur un petit peu de me retrouver chez les paras ou ailleurs. Et comme j'étais spéléo, je voulais absolument continuer à faire de la spéléologie. Et c'est la gendarmerie qui m'a offert la possibilité d'être et gendarme, donc service militaire dans la gendarmerie, et spéléologue.
Une spécialité que vous avez arrêtée, là.
Et après, oui, j'ai arrêté. Et puis après, j'ai découvert toute la palette d'activité de la gendarmerie, parce que c'est quand même ça qui est important chez nous. et qui est passionnant, que ce soit le secours en montagne, la spéléo, les enquêtes judiciaires, le maître chien, la gendarmerie mobile, le GIGN. On a, voilà, c'est un métier qui est gratifiant et qui est passionnant. Donc voilà.
Qui permet d'avoir plusieurs vies dans plusieurs domaines.
Oui, c'est un peu ça. Ouais. Ouais.
Vous avez été un peu dans la gendarmerie mobile ?
Oui, complètement. J'y ai passé 7 ans, je crois.
C'est ouais. Dur, non ? Parce que c'est toujours le conflit, finalement.
C'est plus dur actuellement, je pense. Enfin, moi, j'ai vécu des moments difficiles, mais je crois qu'il n'y a jamais eu autant de conflits qu'actuellement, de manifestations, de... Voilà.
Parce que là, on est là pour aller se bagarrer tous les jours. C'est pas un peu...
Non, c'est une... oui, dans la gendarmerie mobile, on ne fait pas que, non plus que des manifs. Hein. Il y a tout un tas d'autres... d'autres missions qui nous sont dévolues, mais on va souvent en Outre-mer aussi, donc c'est gratifiant quand on est jeune et qu'on est en gendarmerie mobile, qu'on part à Nouméa, qu'en fin d'année...
À Nouméa et à Outre-mer, la gendarmerie mobile, il y a quelques années, ils ont un peu souffert.
Ah, on a souffert, oui, moi, oui, mais bon, ça fait partie de l'expérience, c'est ce qui nous construit aussi en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que gendarme, voilà.
Alors vous qui êtes passé dans plusieurs services et qui avez vu beaucoup de... finalement, de turpitude humaine, parce que c'est souvent le lot des enquêteurs. Qu'est-ce que vous en tirez comme philosophie par rapport à l'homme ?
Par rapport à l'homme.
Comment vous le voyez, l'homme, aujourd'hui ? Ça vous a donné une vision un peu plus noire ou optimiste ?
Non, moi, je suis pas... J'ai pas de... Je suis optimiste. J'ai toujours été optimiste dans ma vie. Donc, c'est justement l'expérience que j'ai. Je n'ai pas plus d'expérience qu'un autre, mais ce que j'ai vu, parce qu'on voit toutes les... Quand on travaille sur des scènes de crime, quand on travaille... ça n'a rien à voir, mais quand vous êtes gendarme dans une brigade et que le vendredi vous fermez la brigade et qu'une maman vient vous voir pour non-représentation d'enfants, etc., vous voyez un petit peu toute la misère humaine aussi, les enfants qui sont ballottés, donc ça forge le caractère non, je suis optimiste parce que je pense...
Mais c'est un beau poste d'observation de la société.
Exactement, voilà, c'est ça.
Alors, vous avez parlé de deux livres, moi je vais en parler d'un, mais enfin, en réalité, je vais prêter ma voix à Nathalie Fontaine, qui est la créatrice de la belle librairie des Tours, qui est à Naïoux, et je vous conseille d'ailleurs de lui rendre visite, vous verrez, elle a beaucoup de charme, la librairie, mais bien sûr, Nathalie Fontaine aussi. Alors, je lui ai dit, tiens, faites-moi un petit texte pour nous parler d'un livre, et voilà ce qu'elle m'écrit. On doit aux éditions Verdier la publication du dernier livre de Dominique Sigaud, Dans nos langues. L'auteur, journaliste et romancière, y dresse le portrait de sa langue et partant de la nôtre. Alors, elle nous fait une petite citation. La langue comme route à travers soi qui peu à peu s'élabore, traverse, creuse, bifurque, déplace le paysage. Et elle revient dans ce récit sur l'histoire familiale en nous disant « Je suis né dans cette langue, moquant juif et nègre, à la table dominicale d'après messe chrétienne. » Sur la violence de la langue paternelle, on est quelques-uns à l'avoir peut-être connu. On est ce que l'on dit. Dominique Sigaud parle de la langue politique, de la langue qui se peut exterminatrice. Mais elle dit aussi « La découverte de l'écriture à l'école, j'entre dans l'illimité ». Elle dit simplement ce que peut la littérature et dans cette langue singulière nous offre ce qui sauve. Bonne lecture, conclut Nathalie Fontaine. Donc je vous rappelle ce livre aux éditions Verdier de Dominique Sigaud, Dans nos langues, la recommandation de Nathalie Fontaine de Détour, cette librairie située à Naïoux. Merci Nathalie. Puis moi, une brève annonce va se tenir bientôt. Le 3e salon du polar et de l'aventure qui aura lieu précisément les 8, 9 et 10 juin sur le Lydia au Barcarès, vous savez, ce bateau échoué où on parlera de romans, de BD, il y aura des dédicaces d'auteurs, donc réservez votre date. Et puis si vous y allez, j'aurai le plaisir de vous y retrouver puisque je dédicacerai quelques livres et j'animerai les tables rondes. Et bien voilà, nous sommes arrivés, Stéphane Tonelli, au terme de notre heure d'émission. Donc merci d'être venu, merci à la Gendarmerie nationale de nous avoir permis de nous rejoindre et puis de nous avoir un peu expliqué ce monde bizarre qui est le vôtre, que nous ne connaissons pas bien et dans lequel on peut si facilement se faire piéger.
Merci à vous.
C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec Aubanette Jean-Louis Arzac, que je remercie. La semaine prochaine, on parlera de toute autre chose, on parlera d'immobilier, de vente, de location et de bien d'autres choses encore, vous verrez. Et j'en parlerai avec Laurence Cristante. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Esprit Occitanie ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion de cette émission demain mardi à 12h et le week-end prochain. Qu'on se le dise, bonne semaine à toutes et à tous. Adéu.